sera à jamais historique. On a même applaudi les flics. Et j'en ai chialé d'émotion. Entre république et nation. Entre république et nation.
Vial, bonjour, c'est la première de cette émission Ça me concerne. Nous sommes ensemble sur Fréquencier pour cette émission qui est un nouveau rendez-vous que nous proposons à nos élus pour qu'ils puissent vous faire part de ce qu'ils ont fait depuis l'émission précédente, en l'occurrence, là c'est la première. Donc c'est depuis finalement qu'ils sont en poste dans ces derniers mois. Ils nous expliqueront les votes qu'ils ont émis, les dossiers qui les préoccupent ou les enthousiasment, les réalisations récentes ou à venir, les projets en études, bref, vous, auditeurs, vous les avez élus, choisis ou pas d'ailleurs, mais le principe c'est qu'une fois élus, ils sont les élus de l'ensemble de la communauté et du territoire qu'ils représentent. Et c'est utile pour le citoyen de savoir ce que font celles et ceux qui le représentent, loin des clichés et des raccourcis de la politique spectacle. Donc, on évite tant que peu la langue de bois et les sujets qu'on retrouve en boucle sur les médias nationaux et on explique les politiques publiques locales ou si elles sont nationales ou régionales, les retombées qu'elles auront au profit ou pas des citoyens ou alors seulement de certains. Merci à vous, Damien Pichereau.
Merci à vous.
D'être venu donc à notre micro pour parler aux citoyens par la voix des ondes. Cette émission sera mise en podcast sur le site donc www.frequencier.org et vous pourrez donc y retrouver les détails qui vous auront éventuellement échappé à la première écoute. Alors, comme c'est la première, pour ce générique très court, une petite question. Il y a quatre morceaux musicaux qui sont dedans et ce sont les titres qui m'intéressent. Il y a « J'ai demandé à la lune » d'Auchine. Il y a juste derrière « Alerter les bébés » Jacques Higelin. Il y a « De République à Nation » Gauvin Serres. Et puis le dernier morceau, c'est David Bowie, « Better Future »,« Meilleur futur ». Ces quatre titres, « J'ai demandé à la lune »,« Alerter les bébés », de République à Nation et un meilleur futur, ça vous inspire quoi par rapport à un engagement politique ?
Beaucoup de choses. J'ai demandé à la Lune, c'est notre programme, c'est notre envie pour la France. C'est d'aller plus loin, c'est de rêver, mais au-delà de rêver, maintenant, c'est d'y aller, c'est d'agir. Et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, de transformer cette société pour un monde meilleur, pour une France meilleure. Donc c'est ça que ça m'inspire avant tout. Après, il y a aussi toute la partie de République à Nation où là, bah, ça me rappelle des moments très tristes. Enfin, personnellement, je l'ai vécu... D'ailleurs, comme beaucoup de citoyens, hein, j'étais extrêmement touché au moment des différents attentats, surtout ceux notamment du Bataclan ont touché également des bars où j'allais quand j'étais étudiant. Donc vous sentez touché personnellement et j'ai été le premier aussi à aller défiler et à effectivement applaudir notre gendarmerie, nos policiers parce que c'est important, ils sont là pour nous protéger et on se doit de les respecter.
Alerter les bébés, l'alerte, c'est quelque chose qui est important en politique ?
Oui, faut toujours être en alerte.
Ça, et les politiques sont les mieux placés pour faire les alertes ?
Je sais pas, je pense qu'il y a
tout le monde doit s'y mettre.
Tout citoyen est bien placé pour alerter. Après, c'est notre rôle à nous politiques de les écouter ces alertes parce que jusqu'à maintenant, on a eu certains hommes politiques qui n'ont pas écouté justement les alertes. Nous, on est là pour écouter, on est là aussi pour répondre. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter, de faire la démagogie en disant oui, on va le faire. Non, derrière, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il faut les expliquer, c'est notre rôle, c'est de faire de la pédagogie au quotidien.
Alors, tout ça pour un meilleur futur, évidemment.
Tout ça
et là,
pour un meilleur
on
futur.
On retrouve, ouais. Évidemment...
Et pour David Bowie aussi, dont je suis un grand fan, même si je préfère Life on Mars, pour rien vous cacher.
Ah ouais, bah c'était une autre époque sur David Bowie. Ça, c'est un morceau qui date de 2002, je crois. Ouais. Alors, Damien Pichereau, vous êtes député de la première circonscription de la Sarthe depuis juin 2017, et tout ça sous l'étiquette La République en marche. Vous êtes passé par l'UMP, hein, une époque. Vous êtes diplômé d'école de commerce, c'est bien cela. Et vous avez exercé le métier de commercial en 2017. Vous avez l'investiture République en marche sur la circonscription Le Mans-Sillé-Fresnay. et non pas sur Mamers, qui est pour autant votre ville natale. Vous avez succédé sur ce poste, sur cette circonscription. J'ai eu des gros problèmes de santé récemment, j'ai un mal fou à parler.
Prenez votre temps,
encore aujourd'hui, ça va par rapport à ce que c'était il y a 2-3 jours. Donc vous avez succédé à Pierre Hellier, à Fabienne Labrette-Ménager, à Françoise Dubois, trois personnalités très différentes et qui ont marqué chacune ces personnalités à leur façon, leur empreinte sur le territoire et sur des modes de relationnel avec les habitants et les élus locaux, entre autres. À ce niveau, une première remarque, il y aura un style Pichereau?
Oui, j'ai pas envie de copier ce qui a été fait précédemment. J'ai envie d'imposer ma propre marque. Le style Pichereau, c'est quoi? Je sais pas si on peut l'appeler comme ça. C'est tout simple, c'est d'écouter les gens. Moi, je vais au quotidien, à l'écoute de mes concitoyens. Quand il y a une loi qui va être votée, je rencontre les concitoyens qui sont concernés. Un petit exemple, deux exemples dernièrement, loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, j'ai choisi d'aller rencontrer les policiers et les gendarmes pour en parler avec eux. J'ai aussi co-signé la proposition de loi sur la fin de vie de Jean-Louis Touraine. Avant de la co-signer, je me suis posé trois questions. C'est déjà, est-ce que moi, je suis favorable? La réponse était oui. Est-ce que les Français sont favorables? Selon les sondages, oui. Et troisièmement, je suis allé voir les associations qui sont favorables, mais aussi celles qui sont défavorables. Et je continue à aller les voir pour enrichir les textes. Donc c'est peut-être ça le style, c'est la proximité et l'écoute.
Donc la méthode, c'est consulter. On peut rappeler aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, que vous êtes jeune, vous n'avez pas encore 30 ans. Hein, et cette démarche, évidemment, d'écoute, elle est totalement cohérente, en fait.
Exactement. Moi, je pars du principe que j'ai un domaine où je suis spécialisé, entre guillemets, qui est le transport, même si j'en apprends encore quasiment au quotidien, mais que sur le reste, je pars du principe où on fait pas comme ce qui a été fait avant, où on regardait du dessus en partant du principe qu'on savait. Moi, je pars du principe que je ne sais pas, et je vais apprendre au quotidien, avec les entreprises, avec les associations, avec les pouvoirs publics également. Et ça, c'est une démarche qui est constructive et qui, je pense, permettra de faire, je l'espère, un bon mandat. Ça, c'est concitoyens qui le décideront.
Vous avez failli apprendre à vos dépens en juin qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mangée ou tuée. En effet, vous sembliez, au niveau des chiffres, passer sans trop de difficultés au deuxième tour et on s'est aperçu qu'il y a eu, si je me rappelle bien, 56 voix, c'est bien ça?
On finit même à 46 ou 47,
voilà.
Je crois.
Donc c'est vraiment très peu de choses. Alors, ça change quoi pour vous? Est-ce que ça vous crée plus d'obligations ou est-ce que c'est un élément de fragilisation par rapport à la reconnaissance de votre implantation locale?
Déjà, ce que je tiens à rappeler, c'est que tout le monde me voyait favori ou ultra favori, sauf moi. Moi j'ai bien dit soir du premier tour, c'est le moment d'enclencher la seconde et d'y aller, d'être à fond sur le terrain. J'ai fait énormément de porte à porte à l'entre-deux tours et c'est ce qui m'a permis, je pense, de gagner. Après, est-ce que j'en sors fragilisé? Je pense pas. Par contre, moi je suis un homme de challenge. Et clairement, ça me booste au quotidien. Il se passe pas une seule semaine sans que je pense à ces moins de 50 personnes qui ont voté pour moi et de me dire la prochaine fois il faut multiplier ce chiffre par 20, par 30, et c'est au final une motivation supplémentaire.
Alors, les chiffres vous ont donné la légitimité, et celle-ci est aujourd'hui incontestable, et vous représentez donc ici l'ensemble de la population de cette circonscription. Et dans l'émission, là, on va évoquer la façon dont vous cherchez à vous appuyez sur la réalité du terrain pour faire avancer les choses en termes législatifs. Et le travail législatif n'est pas un travail simple, on en a tous bien conscience. Mais avant d'entrer dans le terrain, je voudrais revenir sur une petite actualité. Il y a un tweet qui a circulé, qui fait un peu mal. Vous avez un copain député de l'Ain qui a fait circuler une photo qui était visiblement une photo, on va dire, entre copains et qui s'est retrouvée dans l'espace public. Je vous laisse commenter vous-même cette photo, qui, quelque part, est tout de même un peu gênante.
Oui, non, je vais pas la commenter plus que ça. On va faire priorité sur le fond. C'est une photo qui est débile, faut dire le mot. Ça manque totalement de classe, j'ai pas été très très bon là-dessus. Mais après, elle devait rester privée. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est surtout le détournement qui en est fait par certaines personnes de l'opposition, principalement, qui attribuent ce doigt d'honneur à la France ou aux Français, alors que j'aime la France, j'aime mon pays comme personne, j'adore mon hymne, j'adore mon drapeau, donc en aucun cas j'oserais faire ça, et surtout voilà, m'excuser auprès des Français qui auraient pu être choqués. Cette photo n'aurait jamais dû atterrir ici, c'est autant de ma faute que de celle de mon collègue, parce que si j'avais pas fait ce geste malencontreux, il n'y aurait pas eu de soucis, mais bon, voilà, laissons passer.
C'est pas
mon
facile
affaire.
De se contrôler 24 heures sur 24.
Vous savez, moi, je suis avant tout.
Quand on est jeune, entre autres, c'est plus difficile, peut-être.
Ouais, moi, je reste un jeune.
De fougue.
Je reste un jeune de 29 ans et je suis surtout un homme d'action. Je suis pas un homme de communication. Moi, mon but, c'est d'être dans l'action. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, de transformer la société. Et c'est pas dans la communication, c'est dans l'action, dans l'écoute des gens. Et puis, y aller. Aller au gouvernement pour défendre notre territoire. Là est notre objectif.
Alors, on a bien pris note de ce que vous disiez là-dessus. On va pas continuer sur ce sujet. Comme on dit, faute reconnue à moitié pardonnée, déjà.
Hein,
voilà. Et on va plutôt voir ce qui vous attend comme boulot. L'égarement de quelques secondes n'a rien à voir avec le travail de plusieurs jours de ceux qui sont passés et de ceux qui restent à venir. Alors, il y a des domaines dans lesquels vous travaillez particulièrement à l'Assemblée. C'est tout ce qui tourne autour du développement durable. Vous faites partie de cette commission. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement dans le cadre de cette commission ce que vous avez pu réaliser dans cette commission développement durable et aménagement du territoire? D'ailleurs, c'est quoi qui vous intéressait davantage? C'était l'aménagement du territoire ou le développement durable?
Alors, cette commission, en fait, a plusieurs compétences. Elle a effectivement toute la partie développement durable, elle a l'aménagement du territoire et elle a aussi tout ce qui est transport-mobilité. Après, ça aurait fait un nom beaucoup trop long si on avait tout mis dedans. Donc moi, c'est plus les questions d'aménagement du territoire et transport et mobilité. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'aménagement le développement durable, c'est une question essentielle. Hein. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on en parle, notamment avec la COP23 actuellement à Bonn, qui vient de se terminer. Nous, le projet de loi qu'on a eu à traiter, c'était sur la fin de l'exploitation et de l'extraction des hydrocarbures en France à l'horizon 2040. C'est une loi qui est importante. Elle nous paraît très très loin et en réalité, elle est très symbolique, puisque c'est la France qui est le premier pays au monde à dire non, on n'extrait plus d'hydrocarbures de nos sols, parce que c'est pas propre, parce que c'est pas durable, parce que comme on a pu le voir à certains endroits sur nos territoires avec les mines ou autres d'ailleurs, ça a tendance à salir les sols, et ça c'est pas pour 5 ans, c'est pas pour 10 ans, c'est pour des centaines d'années. Donc il nous convient de penser à l'avenir, à mes éventuels enfants et petits-enfants, et je suis très heureux de faire partie de cette commission.
Alors vous avez par exemple eu des interventions dans le cadre de cette commission à propos de transports terrestres et fluviaux.
Tout à fait.
Expliquez-nous un petit peu, sans rentrer dans le détail, la substantifique moelle en fait de la question.
Eh bien, j'ai eu la chance d'être rapporteur pour avis en fait sur la partie transport terrestre et fluviaux du projet de loi de finances 2018. La chance que j'avais, c'est que j'étais sur un budget qui était en légère augmentation, donc c'est toujours plus agréable à commenter, et notamment une augmentation de 10% du budget de la FITF. Donc la FITF, c'est l'organisme qui traite en fait de tous les aménagements, de toutes les rénovations, modernisations d'infrastructures de transport qu'on a augmenté cette année de 10%. Et moi, j'ai fait aussi un focus particulier sur la ligne Alençon-Le Mans. J'ai souhaité la faire figurer dans le rapport parce que tous les institutionnels regardent en fait et lisent ce rapport, donc ça me semblait très très important d'y faire figurer notre territoire et de mettre un petit peu la pression pour moderniser cette ligne. Et le deuxième focus que j'ai fait, c'était sur l'automobile, parce que comme vous le savez peut-être, je suis un passionné d'automobile, et on a beaucoup de mesures, notamment le plan de soutien à la conversion et tout ce qui est malus, mais aussi le bonus sur les véhicules électriques et les autres modes de mobilité douce qui sont introduits ou qui sont poursuivis par le biais de ce PLF, et que j'ai souhaité également rappeler dans ce rapport qui est disponible sur internet si les gens souhaitent le consulter, et j'ai même quelques exemplaires à ma permanence que je remettrai gracieusement.
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que si on va sur internet, sur le site de l'Assemblée nationale, on retrouve l'intégralité de vos actions, c'est-à-dire on peut vous suivre au jour le jour, et ça c'est quand même intéressant en termes de transparence, et c'est valable pour tous les députés bien évidemment.
Oui, tout à fait, on retrouve tout ce qui est questions écrites, questions orales,
alors justement, parmi les questions orales, c'est celle. Alors, c'est très drôle de lire les questions orales parce qu'on a en plus même les interventions des députés qui pensent lâcher le bon mot pour déstabiliser celui qui est en train de s'exprimer. Donc, vous avez posé une question orale portant sur l'importance des dessertes TGV, y compris pour les petites gares.
Tout à fait.
Expliquez-nous.
C'était une question qui était d'ordre national. C'est vrai qu'elle n'a pas d'impact sur la première circonscription, puisque, mis à part Le Mans, on n'a pas justement ces petites dessertes TGV sur des villes de 30, 40 000 habitants, voire parfois moins. Le TGV, c'est un mode de transport qui est extraordinaire. Et qui n'a pas toujours été utilisé à bon escient. C'est vrai qu'il y a une multiplication des gares dans des petites villes et c'est un coût pharaonique, le TGV. Et ce qui fait que cet argent qui a été investi dans les lignes à grande vitesse, c'est au détriment des lignes de réseau secondaire. Et en fait, quand on a dit ça, il y a eu une rumeur qui est partie comme quoi le gouvernement envisageait de fermer des dessertes TGV. Et c'est pourquoi j'ai voulu poser cette question orale, c'était pour avoir l'avis du gouvernement. Et la ministre des Transports m'a répondu que non, c'était pas à l'ordre du jour. À partir de maintenant, on est dans les assises de la mobilité. Les grandes infrastructures vont changer. C'est-à-dire que les grandes infrastructures de demain, ce ne sera plus des kilomètres de bitume ou des tonnes de métal. Ça va être par rapport à leur utilité. Ça va être des pôles intermodaux où on va pouvoir arriver en vélo, repartir en train.
Alors, c'est ça les nouvelles infrastructures. À un moment, gouverner, c'est choisir. C'est faire des arbitrages économiques, budgétaires. Vous défendez fromage et dessert. Vous défendez des desserts TGV. Et en même temps, vous défendez les lignes TER.
Est-ce
qu'il est possible de défendre les deux? Quand vous défendez la ligne Alençon-Le Mans, c'est ça l'idée?
Non, pas vraiment. En fait, l'idée, c'est pas de défendre la création de nouvelles dessertes. C'est juste de dire, il y en a qui sont existantes actuellement, il y a des réseaux qui sont là, on les conserve.
Donc c'est un impact économique zéro.
Voilà, ça va être un impact économique zéro. Il faudra penser à la rénovation dans quelques années, hein, parce que le TGV, justement à présent à au moment où on va commencer aussi à devoir rénover les lignes LGV. Donc ça, faut y penser. Mais non, la priorité aujourd'hui, c'est les transports du quotidien, effectivement, c'est le réseau secondaire. On ne peut pas accepter que, pour prendre l'exemple de la ligne Alençon-Le Mans, on ait des endroits où on a un train qui roule à 60-70 km/h alors qu'il devrait aller à 140. Parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Les utilisateurs se plaignent, prennent de moins en moins le train, donc qui est de plus en plus vide, hein, logiquement. Et derrière, la SNCF va nous dire un jour, oui, mais vu que le train n'est pas utilisé, on va fermer cette ligne.
Alors, je précise que là-dessus, vous avez posé une question écrite sur le thème donc de la vétusté des liaisons ferroviaires. Quelle est la réponse qui vous a été apportée sur cette question écrite?
Que ça faisait partie des priorités. Ça fait partie des priorités du gouvernement.
C'est pas un peu une réponse un peu standard, ça?
Non.
Un peu confortable.
Après, il n'y a pas un acteur. C'est pas que le gouvernement. Il y a le rôle essentiel, je tiens à le rappeler, de la région.
Ouais.
Pour la rénovation de cette ligne. Donc ça va faire partie de mes gros sujets sur les semaines et les mois à venir, parce que c'est mon projet, c'est de moderniser cette ligne. Je me suis entretenu, je vais encore m'entretenir dans les jours qui viennent avec Joachim Pueyo, l'ex-maire d'Alençon et député de l'Orne, pour qu'on travaille ensemble sur cette question. Vous voyez, on a beau pas être du même parti, eh bien, on a quand même l'envie de travailler ensemble, parce que c'est pour notre territoire, c'est pour faire avancer notre territoire, nos concitoyens.
Lui, il est socialiste. Hein.
Tout à fait. Ouais. Lui est du Parti Socialiste. Moi, je suis République En Marche et je suis fier de l'être. Mais on va travailler ensemble pour faire bouger les choses. Après, j'ai un rêve. Ce serait que cette ligne permette d'expérimenter en fait les TER hybrides qui sont en test actuellement.
Vous allez nous parler d'hydrogène ?
Tout à fait, hydrogène.
Et alors justement, vous avez aussi posé une question sur le développement de cette propulsion hydrogène. Et alors là, par contre, ça paraît un peu innovant quand même.
C'est totalement innovant et en même temps, c'est déjà essayé. Et c'est Alstom. En plus, donc, c'est une société française qui l'essaie, enfin qui est européenne maintenant.
Oui, pour l'instant, oui.
européenne. Faut penser européen, faut penser plus grand toujours. C'est important. Et qui fait ces tests-là en Allemagne. L'Allemagne qui vient d'acheter d'ailleurs 14 rames de Dailint. Donc, c'est le TER hybride. Alors, hybride pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un TER qui est électrique. Mais l'électricité est produite par une pile à combustible qui est par hydrogène. Hein. Il y a un réservoir à hydrogène, une pile à combustible qui produit l'électricité. Gros avantage, c'est qu'on a zéro émission, déjà. Et surtout, un coût d'installation qui est 20% inférieur à une électrification classique comme on le connaît avec les caténaires. Donc j'aimerais que ce soit testé en France, c'est pour ça que j'ai fait cette
demande.
Et
on vous a répondu que vous étiez un rêveur ou c'était tout à fait intéressant à développer.
On m'a répondu que c'était intéressant, que ça allait être fait. Ouais. Maintenant, l'objectif, c'est que ce soit fait chez nous, tout simplement, parce qu'on a, plein d'avantages en réalité. Cette ligne-là, la ligne Caen-Le Mans-Tours, et donc la partie Alençon-Le Mans en priorité, elle est à 55 minutes de Paris. C'est quand même important. On est près du cœur économique. On a le CIM, qui est le centre d'ingénierie de la SNCF, qui est situé au Mans. Donc, pareil, on est dans l'innovation. Et ce serait vraiment, 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 pour moi, très pragmatique, au final, que ce soit cette ligne qui serve d'expérimentation en France pour le TER hybride à hydrogène.
Je crois que c'est le genre de dossier sur lequel vous devriez avoir normalement un consensus de l'ensemble des élus locaux, a priori.
J'espère bien. Sinon, je ne comprendrai pas.
Bon, on va quitter ce domaine des transports. Il y a quelque chose qui a beaucoup bougé aussi depuis l'arrivée du nouveau gouvernement. C'est dans le domaine de l'éducation. Beaucoup de choses sont remises en cause. Vous-même, ici, vous êtes manifesté au moment de la rentrée à Selboine. Vous étiez il n'y a pas longtemps à Champfleur. Et ce qui se fait aussi en matière d'éducation sur l'hôpital vous intéresse Quelle vision vous avez, vous, des enjeux d'éducation qui se résument quand même à deux problématiques? Il y a l'éducation avec un grand E, hein, avec tous les principes philosophiques et pédagogiques qu'il peut y avoir derrière, puis la réalité du terrain, avec quels moyens on travaille et qui décide de quoi.
Alors, moi, en termes d'éducation, j'ai deux chevaux de bataille. La première, c'est le lire, écrire, compter. C'est le basique. Voilà, et ça, c'est l'école primaire, c'est un des engagements d'Emmanuel Macron, c'est que 100% des élèves qui sortent de CM2 sachent lire, écrire, compter. Et si on arrive à faire ça, je peux vous dire qu'on va avoir réussi, vraiment, pour moi, on aura réussi quasiment notre quinquennat en réalité. Parce que Emmanuel Macron a raconté quelque chose de très bien lors d'un de ses meetings, je me rappelle, c'était une petite fille qui était une fille d'une mère marocaine, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui disait qu'elle voulait apprendre le français pour en fait l'apprendre à sa mère. Et c'est ça. Voilà, ça va être aussi le rôle des enfants, peut-être, de rapprendre à leurs parents. On est beaucoup trop touchés par l'illettrisme en France et c'est un vrai
alors,
frein.
Alors, on parle beaucoup des zones prioritaires, où il y a ces dédoublements dans les quartiers sensibles, principalement. En zone rurale, on n'a pas ce type de situation. D'ailleurs, on ne va pas s'en plaindre, au demeurant. Hein. Mais il y a aussi des besoins, parfois. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain ici en termes de besoins qui pourraient vous amener à essayer de faire bouger des choses, même si ce n'est pas directement les commissions ou les missions sur lesquelles vous travaillez actuellement?
Non, mais même si ce n'est pas ma commission, ça ne m'empêche pas d'ouvrir les yeux. Hein. Je suis quelqu'un de curieux par nature, donc j'aime voir ce qui se fait. Déjà, ce que je souhaiterais dire, c'est féliciter les écoles que j'ai pu visiter pour la modernité dont elles font preuve. Puisque toutes celles que j'ai pu visiter, il y avait les vidéoprojecteurs, il y avait... Enfin voilà, l'époque du tableau noir est finie, y compris dans la ruralité. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Concernant ce que vous me disiez sur les classements REP, REP+, en zone rurale, moi, je trouve que c'est un problème. Parce que il n'y a pas forcément les mêmes problématiques, mais on les retrouve quand même au final, parce qu'on a parfois des parents qui ne peuvent pas accompagner les élèves dans les devoirs, comme pourraient le faire des parents dans des milieux plus aisés. Et donc, il y a cette problématique-là qu'on retrouve, que ce soit dans l'urbain ou dans le rural. Et vous savez, moi, je suis farouchement contre le fait d'opposer la ville et la campagne. On a des problématiques qui se retrouvent aujourd'hui.
Vous voulez être un des porte-parole de la ruralité à l'Assemblée?
J'ai pas besoin d'être un porte-parole, moi, vous savez, j'en viens de la ruralité, j'ai passé 25 ans de
oui, mais
20
tous,
ans,
tous les députés ne le sont pas. Hein,
non, ça, on est d'accord.
A priori,
mais c'est vrai que
le
aujourd'hui,
peu que je connaisse de ce milieu...
l'opposition tente de s'emparer de la ruralité, moi je trouve ça dramatique, sans réellement la connaître. Moi j'y ai grandi, je crois en cette ruralité, et je crois que ce qu'on fait, et notre programme, ce qu'on a déjà fait, ce qu'on est amené à faire, va aider la ruralité. Quand on parle de télétravail, aujourd'hui, par exemple, dans la loi travail, où on veut favoriser le télétravail, mais ça, c'est un vrai atout pour la ruralité. Si derrière, on met aussi la mobilité au cœur du débat pour permettre de relier justement le rural au grand centre urbain. Et c'est ce qu'on fait avec les assises
de
mobilité.
Pour revenir au concret aussi de votre action, vous avez déposé également une question écrite, c'était au mois d'août, sur le problème de la violence qui se développe en zone rurale, avec l'idée de développer éventuellement des espaces d'emprisonnement. Et en même temps, vous avez cité le cas de Ciel-Guillaume où il faudrait une nouvelle gendarmerie. Je pense que vous n'avez pas eu pour l'instant de réponse directe, à moins que vous n'ayez des éléments nouveaux.
On a quelques éléments nouveaux. Maintenant, c'est encore embryonnaire. Donc, je communiquerai dessus au moment venu. Mais oui, la Ciel-Guillaume a besoin d'une nouvelle gendarmerie. Ciel-Guillaume a, je pense, besoin d'effectifs aussi de gendarmerie supplémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un schéma territorial qui a 40 ans. Sauf que notre territoire a évolué depuis 40 ans. La délinquance a évolué depuis 40 ans. Elle n'est plus aux mêmes endroits aujourd'hui qu'elle l'était hier. Donc il faut qu'on arrive à faire évoluer aussi le schéma territorial. C'est pas mon rôle, c'est le rôle de la gendarmerie, du peloton de gendarmerie de Sarthe, qui a fait le travail. Et moi, je les défends pour qu'on puisse effectivement revoir cette organisation.
Alors, là, on a évoqué les actions concrètes telles qu'on les mesure de façon très matérielle, finalement. Mais c'est une question écrite, une question orale, participation à un rapport. C'est votre boulot de député. Ensuite, sur le terrain, donc vous avez fait, j'ai cité tout à l'heure quelques déplacements. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont marqué? On parlera du congrès des maires après, si vous le voulez. Mais pour l'instant, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont marqué en termes de découverte de réalité, de choses vraiment intéressantes, ou alors de choses sur lesquelles il faut remédier rapidement?
J'ai fait beaucoup de déplacements, j'en retiendrai pas un en particulier. J'en retiendrai beaucoup. J'ai été voir énormément, par exemple, d'agriculteurs. Et aujourd'hui, c'est une situation, moi, qui m'alarme personnellement, parce que faut pas voir l'agriculture comme une seule personne qui est producteur de nourriture, mais derrière, elle fait vivre toute une économie locale. Elle fait vivre non seulement évidemment les boulangers, les bars, les restaurants, etc., tout ce qui peut être commerce classique de village, mais vous avez aussi les mécaniciens agricoles, et puis c'est des gens qui peuvent embaucher également, qui vont avoir besoin d'aide, qui vont avoir besoin de main d'œuvre. Donc j'ai pu découvrir de nombreuses situations agricoles, dont je vous cache pas, j'avais déjà conscience, mais qui permettent de se rendre compte encore plus de l'ampleur du drame. N'ayons pas peur des mots que vivent actuellement les agriculteurs, et il faut les aider. Les états généraux de l'alimentation étaient une première étape. Maintenant, il va falloir passer tout ça dans la loi. Et c'est une loi qui va vraiment être importante. Et ce que je souhaite, c'est qu'elle arrive très très vite, quitte à passer par ordonnance s'il le faut. Il faut que ce soit mis en place très rapidement.
Alors, on va partir maintenant sur des questions un petit peu plus polémiques par rapport... On va s'écarter un petit peu de votre action directe. Il y en a quelques-unes qui me paraissent importantes. On va démarrer sur le congrès des maires. Le congrès des maires, donc, racontons ce qui s'est passé. Vous étiez présent avec votre collègue de la 3e circonscription. Je rappelle que les deux députés socialiste n'était pas là, et qu'il y avait donc la présence du député des Républicains, de ma mère Slaferté. Vous étiez présent et vous êtes parti avant que le débat finalement ne démarre, et en fait dans ce débat, les maires sont intervenus pour dire tout ce qui n'allait pas, et l'impression qu'on a peut-être pu avoir, c'est qu'on laissait les services de l'État finalement répondre, alors que vous auriez pu éventuellement apporter quelques éléments de réponse. J'ai lu aussi le communiqué que vous avez fait paraître derrière. Je ne peux pas dire que je l'ai trouvé hyper convaincant en termes d'argumentation sur ce fait-là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une erreur de com' là quand même.
Je ne sais pas si c'est vraiment une erreur de com'. On est là pour ne pas faire de langue de bois. Je ne vais pas en faire. Ouais. C'était plutôt une erreur. Effectivement, on aurait probablement dû rester un peu plus longtemps. On avait des obligations, mais on aurait dû repousser. C'est une certitude. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on est à l'écoute des maires. Ouais. Hein, que ce soit Pascal Fontenelle, personne comme moi, on reçoit régulièrement les maires. À ce titre, je vais moi lancer à partir du mois de janvier des réunions très régulières des maires par canton. En fait, je reprends les anciens cantons, ce qui permet de les réunir en petits comités. À l'origine, ce que je comptais faire, c'était un comité des maires qui réunisse tous les maires qu'on voit une fois par an. Seulement, je me dis, voir 76 maires une fois par an, je ne suis pas sûr que ça permette d'avoir un débat clair et que chacun puisse s'exprimer. Si je les reçois par groupe de 10 à 15, là, on va pouvoir avoir des maires qui s'expriment, qui vont pouvoir me donner les problématiques de leur territoire, et on va pouvoir aller se battre ensemble. Et c'est ça le plus important. Mais j'ai énormément de respect pour tous les maires. Je serai présent à l'intégrité des comités, des congrès des maires. Durant la législature. Voilà, ça ne fait aucun doute.
Voilà, et de toute façon, l'intégralité des interventions figure sur le site internet de la radio.
Vous en avez déjà quelques-unes avec des engagements en bois.
Vous pouvez déjà retrouver quelques interventions justement des maires à ce moment-là. Deuxième question, c'est sur la démocratie interne à l'intérieur de La République En Marche. C'est pas un peu bizarre ce parti politique dans lequel il y a un seul candidat qui est désigné en plus de l'extérieur, c'est-à-dire par l'exécutif?
Non. Moi, personnellement, je voyais personne d'autre que Christophe Castaner qui pouvait remplir ce rôle. C'est quelqu'un qui est.
On ne parle pas de la qualité de la personne, parle de la procédure.
Vous savez, si c'est pour avoir des candidats derrière qui vont faire 2% juste pour pouvoir dire qu'il y a la démocratie, c'est pas forcément nécessaire. Moi, j'en avais parlé avant, j'ai même dit, s'il faut, je vais y aller, je vais faire 1%, ça va être génial. Mais non, sincèrement, c'est pas nécessaire. L'important, c'est d'avoir un candidat et un délégué général qui soit quelqu'un de compétent. C'est le cas avec Christophe Castaner, ça ne fait aucun doute. Maintenant, on a des choses à construire. Il y a des échéances qui arrivent qui vont être très importantes, que ce soit au niveau européen comme au niveau local. D'ailleurs, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble à un corpus idéologique, parce que le plus dur dans un parti politique, c'est pas les élections, c'est entre les élections. C'est permettre à ce parti d'évoluer en même temps que la société. Et ça va être le rôle de Christophe Castaner, et il a toute ma confiance.
J'ai pas suivi l'actu là, parce que j'étais en réunion là toute l'après-midi, toute la journée. Il va garder son mandat de ministre ?
Ça, c'est à lui de le décider.
Et vous en pensez quoi, vous ?
Moi, je pense que Christophe Castaner est entouré également. Il est là pour prendre les décisions qui, derrière, seront mises en application
Peut-il
par d'autres personnes.
Peut-il cumuler les deux fonctions ?
À mon humble avis, oui.
Il le peut.
Il peut le faire. Est-ce qu'il va le faire ? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il peut le faire. Moi, ça ne me posera pas de problème à titre personnel, en tout cas.
Alors, autre petite question, un peu dans le même style. L'APL, on apprend aujourd'hui que, finalement, recule. C'est bien. Alors, est-ce que vous allez nous expliquer que c'était vachement bien comme mesure avant et que c'est vachement bien aujourd'hui, finalement, on est abandonné? Ça ne va pas être facile.
Non, c'est très facile. Encore une fois, je fais pas de langue de bois. Moi, il y a un constat qui est clair, c'est qu'on dépense 40 milliards d'euros pour le logement chaque année. On est avec l'Angleterre le pays qui en dépense le plus, et on a 4 millions de Français qui sont mal logés. Est-ce que ça peut continuer? Non. Donc il faut une vraie politique du logement. Le gouvernement avait planché sur quelque chose, sur plusieurs mesures. Ils vont retravailler dessus, en concertation avec les acteurs du logement social notamment. Donc le gouvernement a pris la décision de repousser cette mesure de baisse de l'APL. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle beaucoup de la baisse de l'APL. Ça n'aurait jamais touché les locataires, puisque les loyers étaient baissés d'autant pour qu'il reste autant
aux locataires.
Ça posait
des problèmes
pour les bailleurs sociaux. Parce qu'en fait, tous les bailleurs sociaux ne sont pas au même point économiquement parlant. On en a qui gagnent de l'argent, il y en a d'autres qui en gagnent beaucoup moins. C'est pour ça qu'on a mis aussi un dispositif de péréquation pour permettre d'avoir plus de justice entre les différents bailleurs sociaux. Mais je suis tout à fait favorable, par contre, à la volonté du président de la République, qui est de réduire le nombre d'offices HLM. Il faut qu'on ait moins d'acteurs, mais des acteurs plus pragmatiques. Et je salue d'ailleurs sur ce point ce qui est fait dans les pays de la Loire, et notamment dans la Sarthe. J'étais à l'inauguration il n'y a pas longtemps de logements à loyer modéré à Sougé-le-Gallon, et j'ai pu voir les logements fabriqués qui sont réellement une qualité exceptionnelle.
Alors, en termes d'avantages, il y a la question sur l'ISF qui a donné donc cette image de président des riches à Emmanuel Macron. Il y a en même temps la suppression des emplois aidés qui crée problème au secteur de l'économie sociale, au secteur associatif et aux collectivités. Et puis on apprend aujourd'hui qu'il va y avoir des mesures pour réduire des charges patronales sans qu'on ait vraiment le détail sur ce qui pourrait se faire. En tout cas, on nous parle de ça pour 2020. C'est pas pour tout de suite. On voit pas très bien là quelle est la ligne directrice de tout ça, mis à part le fait qu'effectivement c'est quand même vraiment vers ceux dont on dit qu'ils vont pouvoir, je ne sais pas quel est le terme, c'est pas arroser, mais qu'ils vont pouvoir rapporter leur ruissellement, réussir économiquement pour que ça retombe après sur l'ensemble du peuple. C'est un peu ça l'idée.
Eh ben, je vais...
expliquez-nous un peu ça.
Je vais vous l'expliquer mesure par mesure sur la suppression, du moins la transformation de l'ISF en IFI. L'objectif, c'est quoi ? C'est tout simplement de dire qu'aujourd'hui, on veut que les Français qui ont de l'argent réinvestissent cet argent dans les entreprises françaises. Parce qu'on a besoin, de gens qui investissent dans nos entreprises. On a des startups qui se lancent, qui franchement ont des idées extraordinaires, y compris sur notre territoire. Il y en a énormément. Moi, j'ai le cas, on a quelqu'un qui développe une moto hybride, par exemple. C'est la seule au monde. Aujourd'hui, c'est Furion Motorcycle. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on a besoin d'investir et l'ISF empêcher d'investir. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus aujourd'hui d'argent dormant comme il y a pu avoir jusqu'à maintenant. Et c'est le but de l'IFI, c'est de dire voilà, l'immobilier, c'est de l'argent qui dort. Donc, on le taxe. Alors, attention, hein. On va pas les taxer chaque propriétaire parce que j'entends déjà l'opposition qui va nous sortir ça. Non, c'est que les gens qui ont des grosses fortunes immobilières qu'on va les taxer. Mais derrière, on veut que les gens investissent dans nos sociétés et c'est ça notre objectif. Et ensuite, quand vous me parlez de contrats aidés. Moi, les contrats aidés, je suis pas pour. Qu'est-ce que c'est un contrat aidé ? C'est précariser l'emploi. C'est une précarisation institutionnelle de l'emploi. On a des gens qui vont être embauchés pour 3 ans. Dans 3 ans, on leur dit au revoir, on prend quelqu'un d'autre. C'est pas acceptable. C'est des gens qui peuvent pas prendre de crédit. C'est des gens qui, dans les grandes villes, ne peuvent pas louer. Tout simplement, ils peuvent pas être locataires parce que les bailleurs les refusent.
Oui, mais est-ce qu'on peut continuer ça ? S'ils n'ont pas les emplois aidés, ils ont quoi comme ressources ?
Alors, on va lancer déjà deux choses.
Sauf qu'ils sont en activité.
Voilà, ils sont en activité, mais pour 3 ans. C'est pas bon. Il faut trouver un autre modèle.
Donc, il faut mieux 3 années de chômage de plus.
Pas du tout. Pas du tout. Mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On fait déjà une expérimentation sur les emplois francs. Ça, c'est pour tout ce qui est quartier difficile, banlieue. Ça, c'est une expérimentation qui a été lancée à l'initiative des députés. Je tiens quand même à le dire, de La République En Marche. Puisque souvent, on est là pour nous critiquer, mais il faut aussi qu'on dise quand on fait les choses et quand on lance des choses. Et là, c'est notre cas. Mais non, le contrat aidé, non, aujourd'hui, c'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est plus de formation. Et ce qu'il faut, c'est aider les entreprises à embaucher. Et c'est le but des baisses de charges. C'est l'objectif. Si on veut baisser les charges sur les entreprises, c'est parce que ceux qui embauchent aujourd'hui, ce sont les entreprises.
Voilà.
Donc aidons-les. Alors, par contre, vous me parliez d'une chose qui est très intéressante, c'est le secteur associatif. Et là, moi, j'ai ma petite idée, qui n'est pas aujourd'hui, je ne sais pas si c'est celle du gouvernement ou autre, mais moi, ce que je défends, c'est qu'on ait un contrat associatif, parce que les associations, aujourd'hui, elles font parfois ce que l'État ne peut pas faire. Par exemple, dans le domaine de la réinsertion. Et elles sont
pas
vraiment spécialisées là-dedans.
Pas uniquement l'État, les collectivités
locales. Oui, ce que l'État...
Ou les entreprises privées.
Ce que la nation française, ce que l'État ne peut pas faire au sens large. Et donc, il faut qu'on puisse dire, mais si vous avez besoin de personnes embauchées pour faire ce que l'État ne peut pas faire, eh ben, on va quand même vous aider par des baisses de charges, par exemple, des diminutions drastiques de charges. Et ça, je défends l'idée d'un contrat associatif, du moins pour les associations à but non lucratif, hein, pas pour les associations qui vont générer de l'argent, parce qu'il faut aussi éviter les dérives.
Bien sûr. Alors, donc, on a fait un survol très, très rapide. C'est fou, parce que ça va vite une demi-heure, on ne se rend pas compte.
Oui, oui, oui. J'aurais plein de choses à dire.
Alors, justement, je vous laisse sortir votre carte joker, c'est-à-dire la chose dont on n'a pas parlé et dont vous souhaiteriez évoquer quelques idées, là, en quelques mots.
Bah, moi, vous savez, vous m'avez demandé tout à l'heure si j'étais porte-parole de la ruralité. Moi, je suis porte-parole de tous les Français, mais en ruralité, il y a quelque chose qui me semble extrêmement important. C'est le déploiement du très haut débit et de la 3G et de la 4G sur l'ensemble du territoire français. Ça, c'est quelque chose qui est aussi pour lequel je me bats à chaque fois que je vois le ministre de la Cohésion des Territoires et aussi le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi. C'est quelque chose qui est en cours. On est en pleine réflexion, enfin on n'est même plus dans la réflexion, on est dans l'action, on est en train de voir les différents opérateurs pour pouvoir leur mettre pression pour que dans un premier temps ce soit eux qui déploient le très haut débit et 3G, 4G sur l'ensemble du territoire, et si eux ne peuvent pas le faire, alors ce sera l'État qui substituera et qui ira et qui mettra les antennes, parce qu'on n'a plus le droit d'avoir de zone blanche en France. Moi, j'avais été rencontré pendant la campagne un agriculteur qui me disait qu'il perdait en fait 1 heure par jour parce qu'il n'avait pas de réseau sur son exploitation et parce qu'aujourd'hui tout se passe par Internet. Donc voilà, c'est un point que je souhaitais aborder.
Alors, pour conclure en quelques mots, donc vos chantiers dans les prochaines semaines, les dossiers sur lesquels vous allez travailler ou
Ça tourne autour de la mobilité principalement.
Fois,
on va avoir
toujours,
un retour là du projet de loi hydrocarbures dans l'hémicycle.
Ouais.
Retour du Sénat où il y a eu quelques amendements qui ont été ajoutés sur lesquels on va devoir se prononcer. Et après, moi, c'est mobilité, on est sur les assises de la mobilité, donc continuer à apporter des idées. On aura également des ateliers qui seront organisés au niveau local. On va organiser d'ailleurs beaucoup de choses au niveau local. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi et nos ateliers débat, je peux vous
mais
le dire.
Mais volontiers.
Mais voilà, principalement transport et mobilité, c'est super important. Et sur le plan local, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, la ligne Alençon-Le Mans, il faut qu'on se batte tous ensemble pour cette ligne.
Voilà, et bien c'est là-dessus qu'on va terminer. Côté technique, merci à Guillaume pour sa participation. Merci Damien Pichereau d'être venu passer cette demi-heure, je crois, légèrement...
C'est toujours un plaisir de venir vous voir.
Légèrement débordé. Donc c'était dans le cadre de Ça me concerne, l'émission sur Fréquencier qui doit permettre aux élus de pouvoir expliquer ce qu'ils font en ayant le temps d'expliquer. Et j'espère qu'on aura intéressé, en tout cas, les auditeurs et leur donner envie d'aller plus loin, d'aller chercher parce
bien
que
sûr.
C'est vrai que sur le net il y a aussi des choses intéressantes
et puis je suis à leur disposition
voilà,
s'ils peuvent
moyen
venir
de...
me voir je viendrai très très bientôt dans des permanences rurales sur l'ensemble du territoire, donc qui n'hésite pas à venir me voir ou à me contacter.
Très bien, merci à vous, au
merci,
revoir.
Merci, au revoir.